Salut Julien.
Salut Samir.
Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, de quoi qu'on se cause ?
Eh ben, on va se causer de ton complexe du sauveur. Et pourquoi il est dangereux et pourquoi aussi il cause beaucoup de soucis dans notre société occidentale. Mais pas que.
Et exactement. Et surtout quand ce complexe du sauveur est accompagné d'un complexe de supériorité en plus. Parce que ça peut
alors
arriver
là, ça. Ouais. Alors là, ça pose un sérieux problème et on va essayer de se parler de ce sujet-là aujourd'hui pour pouvoir justement faire le tour de la question et voir comment toi aussi tu peux éviter de tomber dans ce piège et savoir également le reconnaître pour avoir un regard plus juste et plus de recul en fait sur ce qui se passe à travers le monde et autour de toi. Alors avant d'aller plus loin, comme d'habitude, on va t'inviter à liker, commenter, partager et bien sûr t'abonner si ce n'est pas déjà le cas. On compte sur toi pour que tu puisses faire passer le message autour de toi, que tu fasses connaître un peu plus ce podcast et que tu nous aides à prendre plus de place sur les ondes.
Et s'ils font pas ça, Julien, qu'est-ce qui va leur arriver ?
Ils vont tous finir en enfer.
Voilà, donc like, commenter,
partage. Vu comment on est parti là, je pense qu'on va tous y aller. On va se faire un super barbecue.
J'ai pas trop envie, moi.
Un volleyball sur la plage.
Ça me branche pas trop. Alors, du coup, Julien, peut-être pour commencer ce podcast, peut-être de définir ce qu'est le complexe du sauveur. En fait, le complexe du sauveur, c'est un besoin compulsif de sauver les autres et souvent au détriment de soi-même ou même parfois, pas forcément au détriment de soi-même, mais en forçant les autres à accepter d'être sauvés alors qu'ils n'ont rien demandé.
Ouais, c'est ça. Ça peut vraiment être au détriment des autres personnes.
C'est ça.
Parce que oui, tu peux t'oublier, mais tu peux aussi ne pas tenir compte de l'avis des autres, de ce qu'ils veulent, de ce qu'ils désirent, de ce qu'ils pensent. Et en fait, bah, c'est pas vraiment la meilleure chose à faire.
Ouais, exactement. Et tout à l'heure, tu vois, je te disais par exemple que quand il y a en plus le complexe de supériorité, ça peut être dangereux. Bah, tu vois, moi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle une expérience que j'avais. Alors, je l'ai pas vécue. C'était à l'époque où je m'occupais des SDF là. Un SDF qui m'avait raconté, c'est une histoire que j'ai déjà racontée rapidement, mais je vais la faire vraiment en bref, où un SDF était assis avec son chien, et il y a une personne qui s'occupait d'une association, qui l'a forcé, en fait, elle est passée, elle lui a donné son sandwich de force, alors qu'il en voulait pas. Il a dit, j'en veux pas, j'ai déjà eu à manger, donner à quelqu'un d'autre. Elle l'a forcé, elle lui a donné comme, tiens, tu prends, vas-y, prends ton truc, et puis arrête de m'embêter. Et en fait, il nous l'a raconté par la suite en disant, en fait, je l'ai super mal pris, c'était trop violent pour moi. C'est que j'ai rien demandé, déjà. J'en avais pas besoin parce que moi, j'avais déjà mangé. Et en fait, elle m'a forcé, elle me l'a donné comme si j'étais un, tu sais, j'étais un vulgaire manant, en fait, tu sais, qui était assis là, comme ça, sur les côtés.
Ouais.
Et en fait, il est possible que cette personne, elle a eu une intention positive, elle veut aider. Mais sauf que la personne, elle t'a strictement rien demandé. Et ta manière de faire les choses, il y a eu ce complexe de supériorité. C'est je sais mieux que toi ce que tu as besoin. Mmh. Et ça, malheureusement, cette chose, elle se présente dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, aussi bien dans des associations, aussi bien au quotidien, je veux dire à titre personnel, mais aussi bien dans certains mouvements, en fait, certains mouvements ou certains collectifs qui sont là comme pour imposer leur vision parce que eux, ils pensent avoir la vision, la meilleure vision, le meilleur mode de vie.
Tout à fait.
Ils savent mieux que les autres. Et c'est quelque chose qui s'est même présenté, tu sais, à l'époque du colonialisme où c'était comme, bah, en fait, les autres ont besoin d'être éduqués, ils ont besoin d'avoir un mode de vie qui est meilleur que les leurs, donc on va leur imposer, on va les sauver, alors qu'en fait, ils n'ont rien demandé, et qui te dit qu'ils étaient inférieurs à toi ?
Ouais, tout à fait, et en fait, ce qui est peut-être aussi intéressant, et merci pour ce partage-là, Samir, c'est justement tout le caractère psychologique qu'il y a derrière ce syndrome du sauveur.
C'est ça.
En fait, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte, et peut-être parler ici du premier profil, qui va être en constante recherche de reconnaissance et de gratitude. C'est vraiment ça qui va les guider le plus dans ce syndrome du sauveur de « je veux recevoir cette reconnaissance, je veux vivre ce sentiment de gratitude ». Et comme tu l'as dit, ça peut amener à être dans une dynamique qui est malsaine finalement, où tu t'oublies pour essayer de faire plaisir, pour apporter le plus aux autres, avec très souvent, en retour, pas vraiment ce que t'attends, donc pas la reconnaissance, pas le sentiment de gratitude, pas les remerciements aussi, et ça se transforme après en reproche, ça se transforme en aigreur, tu sais, tu deviens aigri, tu deviens désagréable, parce qu'à un moment donné, bah, t'en peux plus te donner pour rien recevoir, et puis après, bah, tu repars pour un tour. Fait que ça, c'est le premier profil, celui que t'évoquais. Il y en a d'autres. Il y a aussi le profil qui va être ce qu'on appelle le sauveur abîmé. C'est celui qui va chercher à compenser à travers l'admiration qu'il va générer chez les autres et l'amour qu'il va générer chez les autres par son intervention. Il va essayer de compenser pour ses propres insécurités. Et ça aussi, c'est problématique parce que, bah, en fait, ça veut dire que tes relations, de manière générale, sont des relations qui sont trop transactionnel. Tu fais des transactions. Alors, je dirais pas le mot ici, mais tu te mettrais sur un trottoir pour demander de l'attention, ça serait pareil. Ce serait exactement la même chose. Sauf que toi, ça passe pas par ça. Ça passe par, bah, je vais sauver les autres. Je vais aider les autres, même si on m'a pas demandé à ce que j'exacte.
Ouais.
Et ça, c'est très problématique. Il y en a un autre. Troisième qu'on peut compter, c'est le sauveur empathique. Et le sauveur empathique, bah celui-là, clairement, c'est parce qu'il a peur d'être abandonné et il a peur de la distance émotionnelle. Donc en fait, il va se connecter à toutes les personnes qui démontrent un minimum de problèmes, qui sont comme en demande de connexion, en demande de présence, et en fait, ils vont utiliser leur empathie pour se connecter aux autres, les sauver. Et ça va être une relation qui va être malsaine, parce qu'en fait, bah, je vais tout faire pour te garder proche, de garder la main sur toi, parce que je veux pas être abandonné, parce que je ne veux pas qu'il y ait de la distance entre toi et moi.
Ouais.
Et le dernier, peut-être qu'on peut évoquer ici, c'est le sauveur, allez, un peu terroriste. C'est celui qui va manipuler et contrôler les autres par peur d'être abandonné. Donc je te manipule pour pouvoir te sauver, je te montre que je suis utile, je te montre que je suis important et que sans moi, tu pourras pas faire. Et du coup, bah c'est un moyen pour moi de gérer ma propre peur d'être abandonné.
Ouais.
Donc ce complexe du sauveur, bah pour le coup, il est complexe.
Ouais, il est très très complexe.
Parce qu'il y a beaucoup de choses dedans.
Ouais, et puis il y a certainement encore d'autres points qui peuvent être amenés par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui est multifactoriel.
Oui.
Et c'est propre à chaque individu, en fait, ce qui peut le pousser justement à aller vers le syndrome du sauveur. Moi, je pense aussi aux personnes qui vont contre-projeter, qui se mettent constamment à la place des autres et qui parfois, bah, lorsqu'une personne va vivre une difficulté, elle va le vivre à sa place. Alors que si ça se trouve, la personne, ça l'impacte pas du tout. Mais c'est comme, moi, ça m'impacte, moi, ça me fait mal. Alors, je vais venir te sauver comme pour te dire, non, il faut faire ça, il faut faire ceci, je vais faire les choses à ta place. Et après, au final, ça peut amener des conséquences qui peuvent être pires pour la personne parce que elle, ça l'impactait pas autant que ça au final.
Ouais.
Bien vu justement d'avoir amené ces différents facteurs qui peuvent amener à aller vers le syndrome du sauveur. Et le truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce syndrome du sauveur peut amener à un cercle vicieux parce qu'il est en lien aussi avec le triangle de Cartman. J'ai donné l'exemple du direct, colonialisme, ouais. Julien. C'est un des exemples. Hein. C'est OK, on va aller sauver des peuples... qui, parce qu'ils estimaient que les peuples africains étaient en dessous, par exemple, si je parle de la colonisation africaine. Donc, c'est on fait. Va leur donner l'éducation, on va leur ramener notre mode de vie, notre style de vie, parce qu'on estime qu'on est meilleur.
On va leur imposer notre religion, on va leur imposer nos mœurs, nos habitudes, ouais, tout à fait.
Exactement. Ces petits sauvageons, tu sais, je rajoute ça pour rigoler, mais c'était ouais, tout comme. Bon, hein.
C'était un moyen de parler, effectivement, de... ces personnes qu'on allait sauver.
Exactement. Et le truc, c'est que bah tu vas imposer ton mode de vie, tu vas te rendre compte que les gens, ils ont pas forcément envie de te suivre. Déjà, tu les envahis chez eux. Donc, il va y avoir peut-être une révolte, il va peut-être y avoir une rébellion. Et là, derrière, c'est comme, ah, t'as vu ces ingrats? Et en fait, c'est ça. C'est que c'est un triangle de Cartman. Tu vas passer du sauveur alors que personne t'a rien demandé, les gens veulent pas de ton aide. Tu vas passer en mode persécuteur. T'as vu ça? T'as vu ces ingrats là? Moi, je viens, je dépense de l'argent pour eux, je les aide, et puis au final, ils en veulent pas. Et c'est ce qui est en train de se passer, ne serait-ce qu'au travers de l'histoire, si je reparle, parce que bon, c'est peut-être quelque chose qui me touche aussi, la colonisation. Mais au travers de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, la colonisation a quand même amené des choses. Moi, je suis algérien. La ville d'Alger ne serait pas la ville qu'elle est aujourd'hui sans cette empreinte aussi de la colonisation, avec les bâtisses haussmanniennes. Il y a l'architecture haussmannienne. qui a été laissé aussi. Mais derrière, il y a eu aussi, certes, il y a eu des points qui aujourd'hui font partie de l'histoire, mais il y a eu aussi des massacres, il y a eu aussi des choses très très négatives, il y a eu une politique d'apartheid, il y a eu toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, quand on vient et qu'on demande encore une fois à l'ex-colonisateur, mais regarde aussi ce que t'as fait peut-être des bonnes choses, mais t'as fait plein de mauvaises choses. Mmh. Bah, en fait, les personnes qui sont très extrémistes de ce point de vue-là vont venir nous dire, bah oui, mais vous êtes des ingrats, vous, hein. Ah, c'est pas bien ce que vous faites là. Pliez-vous devant nous, hein, quand même, pour tout ce qu'on vous a, on vous a apporté. Et c'est ça, en fait, le problème. Si on transpose ça aux relations humaines, mmh. bah, c'est ce qui se passe, en fait. C'est que toi,
ouais, tout à fait.
Qui nous écoutes, qui a ce syndrome du sauveur, bah, peut-être que tu fais exactement les mêmes choses. Tu vas imposer des choses à des personnes qui ne t'ont rien demandé. Puis après, ces personnes-là, pour eux, en tout cas, dans leur carte du monde, dans leur style de vie, ce que tu leur as apporté, bah, ça leur apporte pas que du bien. Parce que c'est pas adapté, c'est pas écologique pour eux. Et ouais, au bout d'un moment, on va peut-être venir te dire, bah, écoute, bah, non, en fait, j'en veux pas de tes conseils. Regarde ce que ça m'a apporté. La dernière fois que je t'ai écouté, bah, je me suis retrouvé dans la merde. Et ben, bah, en fait, t'as là, t'as le sauveur qui est pas content parce qu'il est blessé dans son ego et qui va faire, bah, tu te prends pour qui, en fait? Ben voilà, mmh. je suis venu, je t'ai sauvé, je t'ai aidé. Tu vois, donc c'est vraiment de comprendre que derrière, il y a un gros cercle vicieux et que tu peux faire plus de mal que de bien. Ouais.
Complètement. Et tu sais, je repensais à... Si tu prends l'invasion de l'Amérique latine, où en fait, tu as des civilisations entières qui ont disparu. Tu prends la civilisation Inca, elle a disparu du jour au lendemain, sans laisser de traces. Et ce qui est... La cause la plus probable de cette disparition, c'est parce que bah on a débarqué là-bas avec des maladies qui n'existaient pas, ouais. et donc ils ont été en contact avec ça, et malheureusement ça les a complètement à la ramasse. Ils ont tous disparu à cause de ça.
C'est ça.
Et c'est sûr qu'il y a ce côté-là. Bon, alors après on parle aussi d'une époque qui est différente parce qu'il y avait
ça aussi.
Il y avait une dynamique où il fallait conquérir le monde, il fallait découvrir les territoires inexplorés. Heureusement, on n'est plus dans cette dynamique-là. Bon, maintenant, il y a d'autres problèmes qui se posent, mais c'est plus la même dynamique. Par contre, ce qui est sûr, c'est que selon l'histoire que tu as, parce que on peut tous plus ou moins avoir ce complexe du sauveur, qui peut ressortir, parce qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, bah tiens, j'ai un sentiment peut-être de supériorité qui est là, et je me dis pas bah, que je peux sauver cette personne. Alors attention, on fait la distinction entre le complexe du sauveur et le fait d'apporter de la bienveillance et le fait de vraiment être dans l'altruisme. Parce que t'es dans l'altruisme, bon bah tu agis, tu gardes ta place, tu t'imposes pas ton point de vue, t'imposes pas tes manières, ta façon de faire les choses ou de voir le monde, et du coup t'es plus dans la même dynamique. Mais quand t'as cette posture finalement où je sais mieux que toi ce qu'il faut que tu fasses, ce que tu décides, ce que tu vives, ce que tu choisisses, bah en fait, c'est problématique. Et si jamais, bah, toi qui nous écoutes, tu sens que parfois tu es dans cette dynamique-là ou que tu connais des personnes qui le sont, bah, c'est aussi de remonter aux racines de ce syndrome-là, de ce complexe-là, qui sont souvent en fait en lien avec des expériences liées à l'enfance, hein, comme par hasard, et c'est souvent là que ça vient, où il y a de sentiments d'abandon. Il y a le fait d'avoir peut-être traversé des traumas particuliers. Et puis, il y a aussi tous ces enfants à qui on a enlevé leur enfance parce qu'on les a, on leur a donné un rôle de parent à un âge qui était beaucoup trop tôt pour X raisons. Famille nombreuse, un parent qui décède, peu importe. Ou finalement, on a fait grandir l'enfant plus vite qu'il ne l'aurait dû. Et ça vient jouer sur la validation en fait, qu'on va avoir aux yeux des autres, la place, le rôle qu'on a à jouer aux yeux des autres. Et si jamais il y a ça en arrière-plan, bon, bah, faut pas te taper dessus pour dire, ouais, j'ai un complexe du sauveur, c'est pas normal, je devrais pas, etc. C'est de prendre conscience de ça, en fait, et vraiment prendre conscience des besoins que t'essayes probablement de satisfaire, mais que tu le fais pas de la bonne façon et que ça peut être vraiment nuisible pour les autres. Et j'ai envie de continuer dans cette dynamique, et c'est un sujet dont on parle quand même assez souvent, Samir, tous les deux, parce qu'en même temps, ça passe tellement souvent dans les médias et dans les communications. Mais moi, il y a un truc qui m'horripile, c'est les personnes qui sont porteuses de ce syndrome du sauveur, qui s'en rendent pas compte, très certainement, mais qui l'ont, et qui t'expliquent ce que tu dois faire, comment est-ce que tu dois voir les choses, comment est-ce que tu dois les penser. Et il y a ce côté, finalement où, même si l'intention elle est bonne, il y a beaucoup de gens qui défendent des causes, mais même si l'intention est bonne, c'est comme, mais cette cause-là ne t'appartient pas, cette cause-là ne te concerne pas, c'est ok que tu te sentes touché par ça, parce que bah moi je vais me sentir touché par tout un tas de choses qui ne m'appartiennent pas, qui ne me concernent pas, qui ne touchent pas ni ma culture, ni ma personne, ni ma famille, ni mon histoire personnelle, rien du tout. Et je peux être touché par ça. Mais c'est aussi de voir que, et tu l'avais évoqué déjà par le passé, et on en avait rediscuté, mais c'est que des fois tu te retrouves avec des gens qui se pensent tout permis sur ce qu'il faudrait pas, sous couvert qu'ils le font pour pouvoir aider telle ou telle population, telle ou telle cause. Et en fait, personnellement, ça m'insupporte au plus haut point. Je trouve ça malsain. Et je suis même pas sûr que dans de nombreuses situations, ce soit si bénéfique pour les personnes qui sont visées. Ouais. J'ai vraiment ici un exemple, et c'est peut-être moi qui comprends mal les choses, et je serais ravi d'apprendre plus sur le sujet. Mais depuis quelques années, ils nous bombardent de ce qu'on appelle l'appropriation culturelle. Eh bien, je suis désolé, mais depuis que ça, c'est en mouvement, je n'ai jamais vu si peu d'expressions de multiculturalisme dans les endroits où j'ai pu aller. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis en plein délire, peut-être, et je comprends que bah c'est peut-être pas bien de se déguiser en telle et telle personne, c'est peut-être pas bien de ceci et de cela. Mais pour avoir l'occasion de passer du temps dans des grandes villes, pour avoir l'occasion de voyager aussi dans plusieurs pays, bah je suis désolé, mais les gens, ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent tous. Je veux dire, avant, tu avais la possibilité de voir des choses qui appartenaient à différentes cultures. Parfois, tu voyais des gens qui allaient porter des fringues, qui allaient avoir un style, qui allaient utiliser des choses qui, oui, ça appartient pas à ta culture d'origine, mais est-ce que l'utiliser fait forcément de toi quelqu'un qui va moquer et qui va considérer que, justement, ça, bah en fait, ça vaut moins que rien, donc je ridiculise, je m'en sers, etc. Mais en attendant, la seule chose que je vois maintenant, sauf si bah tu vas dans des musées, tu vas dans des expos, etc. Mais sinon, est-ce qu'on le voit encore, ce multiculturalisme? On le voit pas vraiment. Parce que tu peux venir du fin fond de l'Afrique, tu vas être habillé avec un costard-cravate ou un tailleur. Ok. Bon, je comprends, tu t'adaptes, tu t'ajustes à ton environnement. Mais en fait, est-ce que ça fait pas disparaître quelque chose que de vouloir absolument... Tu sais, parce que je sais pas qui est à l'origine, mais on va se le dire, les gens qui nous font chier avec ce principe-là, bah excuse-moi, mais c'est des blancs. C'est des blancs cosmopolitains. Puis, j'ai rien contre, je suis blanc. Je fais partie de la même culture. Mais c'est comme... Ok, est-ce qu'il n'y a pas un problème là? Ceux qui nous font chier sur l'appropriation culturelle, c'est toujours les mêmes. C'est pas les personnes concernées. Est-ce que c'est moi qui délire ou je sais pas? Je sais pas comment tu le vois, Samir, mais est-ce que c'est moi qui ai pas les bonnes infos, qui voit pas les bonnes choses? Et je comprends l'intention qui peut être très positive derrière. Mais bordel, est-ce qu'on nous a demandé de dire quelque chose ou de faire quelque chose?
Moi, ce que tu me dis, ça me parle parce que je vais faire un lien avec autre chose, mais récemment, j'ai eu des personnes qui m'ont parlé de racisme, qui sont venues me parler du racisme, comment on devrait faire, comment les gens devraient se comporter, etc., par rapport au racisme. Sauf que c'est des personnes qui n'ont jamais été concernées par le racisme, que moi j'ai vécu, en tout cas dans ma vie.
Ouais, tout à fait.
Et moi, ça, j'aime pas du tout. C'est pas à toi de venir me mettre en victime, de venir me dire « Oh, pauvre petit de toi, oh là là, pauvre petit gars !» T'as vécu ça, t'as vécu ceci, la société elle veut pas toi, j'en ai rien à faire, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi tu me mets en victime alors que je le suis pas? J'ai vécu du racisme certes, ça m'a permis d'être aussi où j'en suis aujourd'hui, ça m'a permis de grandir. Peut-être que pour certains ça va être beaucoup plus difficile, c'est vrai. Et ça devrait pas exister.
Tout à fait.
Et je dirais même plus que tu sais ce que ces personnes là qui viennent me dire là, qui viennent se porter en Charles Martel, je prends ce nom là, de la lutte contre le racisme là, et qui sont, comme tu dis, Julien, blancs, qui sont pas du tout concernés par ce que je vis, parce qu'ils font partie justement peut-être de la majorité dans le pays, dans ce pays-là, par exemple en France, des Français avec un prénom français qui n'ont jamais été concernés, qui viennent, ils se mettent en, tu sais, en sauveur, bah, j'ai presque envie de dire qu'en fait, toi-même, tu fais preuve de racisme au final. Ça va peut-être choquer ce que je dis. Mais en fait, t'as des préjugés, t'as des idées toutes faites sur moi. Tu estimes que je suis une victime. Tu estimes que toi, t'as la réponse à ma problématique. Mais laisse-moi tranquille. Laisse-moi gérer mon problème
fous-moi
tout
la
seul.
Paix, ouais.
C'est clairement. Ça, fous-moi la paix. Donc en fait, t'es en train de faire exactement ce qu'ont fait peut-être tes ancêtres quand ils ont colonisé peut-être un pays d'Afrique en disant « moi, je sais mieux qu'eux ». Tu vois ? Et je sais que ça peut choquer ce que je suis en train de dire, mais je dis pas que toi, qui n'as pas été concerné par cette problématique-là, tu ne peux pas nous aider. Tu peux aider ces personnes-là. Mais c'est pas à toi de venir imposer ta vision. Laisse les personnes concernées eux-mêmes trouver des solutions. Accompagne-les à trouver des solutions. Mais n'impose pas ton point de vue. Tu sais, on parle d'appropriation culturelle. Ça me rappelle une certaine comédienne, là, récemment, qui est mariée avec un Sénégalais. Elle vit au Sénégal. Alors, il me semble que c'est le Sénégal, le pays où la Côte d'Ivoire.
Okay.
Et en fait, elle s'habille comme une personne du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire parce que c'est aussi sa double culture maintenant. Elle est mariée avec quelqu'un qui vit là-bas. Elle vit là-bas. Et en fait, t'as des personnes qui sont venues lui dire appropriation culturelle. Mais pourquoi? Mais pourquoi c'est sa seconde culture aujourd'hui? Ça veut dire qu'en fait, c'est pareil.
C'est même pas de l'appropriation.
C'est pas de l'appropriation. Enfin,
ou alors c'est moi qui comprends pas la définition du verbe s'approprier quelque chose. Ouais. Et à partir du moment où tu fais ça, c'est soit par respect par la culture et de dire bah j'ai envie de respecter l'endroit où je suis et je veux pouvoir m'intégrer pleinement, ce qui est peut-être son cas. C'est peut-être par admiration, par plaisir de dire wow, j'adore cette culture, j'adore ça, je veux pouvoir porter telle et telle chose. Mmh. Et dans ce cas-là, bah, c'est vachement bien. Je veux dire, ça veut dire que tu aimes la culture, que tu as envie de la vivre, que tu as envie de l'incarner, même si c'est pas ta culture d'origine. Parce qu'à ce moment-là, tous les immigrés de n'importe quel pays qui essayent de s'intégrer, ils font quoi? Ils font de l'appropriation culturelle.
Bah oui.
Donc à un moment donné, faut arrêter d'être con, quoi. Mmh. C'est vraiment un truc. Bah un des sujets qui me fait bondir parce que je trouve ça tellement ridicule. Et en fait, là pour le coup, avec ce genre de bêtises, on aplanit tout et on supprime les différences. Parce que là, t'imposes à tout le monde en fait de plus laisser la possibilité de faire ressortir telle ou telle culture, tel ou tel élément, telle ou telle info. Et oui, tu t'adaptes à l'environnement dans lequel tu t'installes. Tu sais, c'est comme quand moi je suis arrivé au Québec, le nombre de Français qui arrivent en bon français en voulant faire comme les bons Français au Québec, bah ils s'intègrent pas puis ils repartent. Parce qu'ils disent ouais, finalement, oui, on n'est pas bien ici, c'est tous des cons.
Il y en a ici aux States aussi. Hein.
Mais oui, mais forcément que c'est tous des cons. T'arrives avec ta manière de penser, t'arrives avec ta manière de faire et tu veux faire comme à la maison chez les autres. Et forcément, ça marche pas. Puis peu importe d'où tu viens et dans n'importe quel pays tu vas, forcément, ça marchera pas.
Ouais, c'est drôle parce que ce genre de personnalité, en tout cas, moi, ceux que j'ai vus ici aux États-Unis, c'est les premiers qui vont venir te dire « Oh là là, il y a des gens chez nous qui veulent pas s'intégrer, ils sont différents. Ah non, non. » Oui. En fait, ils critiquent ce qui se passe en France, mais ils font la même chose ici. Ils se mélangent qu'entre Français, ils sont hyper communautaristes. Mais calmez-vous, les gens.
Ils ont leur quartier, ils ont leurs petites habitudes.
C'est ça. Exactement.
Et c'est vrai, tu vois, je rigole parce que c'est sûr, quand je suis arrivé au Québec, je suis arrivé à Montréal, je pense être très original, on s'entend. J'aurais pu aller dans plein d'autres coins entre temps, mais bon, les choses ont fait que j'ai pris ma place là-bas et je me suis toujours refusé, en fait, d'aller m'installer dans le quartier français. C'était hors de question. Je viens pas au Québec pour attaquer des Français. Alors forcément, t'en croises. S'il y en a tellement, c'est sûr que t'en croises et tu peux te lier d'amitié avec certains. Mais c'est quoi le but de partir à l'étranger si c'est pour faire exactement comme tu fais à la maison? T'as aucun intérêt. Et
c'est ça.
Du coup, peut-être pour revenir sur l'exemple parce que je suis reparti en roue libre après, j'ai rebondi sur ce que tu disais, mais sur cette célébrité-là, elle a dû se faire critiquer au possible. Mais après, c'est ça, est-ce que tu sais si les critiques qu'elle a eues sur le fait qu'elle s'habille en fonction de la culture dans laquelle elle se trouve, est-ce que c'est les locaux qui l'ont critiqué? Parce que ça peut arriver. Tu sais, qu'il y a aussi cette résistance des personnes qui sont sur place. J'imagine que c'est les bons petits Européens qui regardaient ça d'un petit peu plus loin et qui disaient « Ouais, c'est pas normal !»
Ouais. Non, c'est ça. C'est les Européens. Ouais. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit souvent les Européens qui sont pas du tout concernés par cette culture, souvent, comme tu dis, des personnes blanches. Soit c'est des personnes qui sont parfois... Ils ont une double culture, Mais en fait, ils connaissent même pas leur culture. C'est ça qui est arrivé. C'est des personnes, par exemple, des Ivoiriens ou des Sénégalais qui ont jamais été.
Ils sont nés à l'étranger, peut-être, et puis.
Donc, avec une mentalité, alors, une culture principalement française. Et c'est ça, en fait, c'est que c'est souvent des gens qui sont pas concernés. Et c'est pareil, en Algérie, si on voit quelqu'un qui va porter une robe kabyle, qui n'est pas, algérien, mais qui porte une robe kabyle, nous, ça nous fait plaisir. On se dit, ah, c'est, tu vois, notre, une partie de notre culture, de ce qui fait, intéresse les autres. Et ça nous fait plaisir de partager. Et c'est ça. Alors que c'est souvent des personnes qui sont pas du tout concernées, qui viennent te dire, t'as pas le droit de faire ça, il faut pas faire ceci. Et comme tu dis, Julien, c'est qu'on se retrouve avec une société qui est très homogène, où même les personnes qui auraient envie de porter ce genre de vêtements et qui peut-être sont à peu près concernées par cette culture-là, ne le font plus parce que ça fait plus partie du paysage, en fait. C'est quelque chose qui est tellement rare que à partir du moment où tu vas le porter, on va te repérer tout de suite. Tu sais, c'est comme, ah, il y a la petite tache là qui vient de passer.
Et c'est ça. En plus, c'est un coup. Enfin, je sais même pas s'il y a une réglementation particulière. Je sais qu'ici au Canada, il y a des réglementations particulières sur certains sujets, mais je me demande même si tu serais pas à risque de te prendre une amende parce que t'as décidé de porter quelque chose qui est pas de ta culture. C'est tellement ridicule.
C'est drôle. Peut-être que ça va être mal pris. Et je sais que ce podcast va faire grincer des dents. Et c'est ok. Et c'est important d'en parler.
L'habitude.
C'est ça, mais c'est aussi important d'en parler, de poser ça sur la table, parce que moi, je t'ai dit la dernière fois, j'ai eu une discussion avec quelqu'un, la personne non français, elle a strictement rien, tu vois, de mes origines à moi, et elle vient me parler de moi, ce que j'aurais pu vivre, du racisme, de ceci, de cela, et limite de m'imposer au travers de son regard, ce qu'elle pense, sauf que moi, en fait, je me sens même pas concerné par ce que tu dis là, en fait. Au contraire, je suis pas une pauvre petite chose, j'ai vécu du racisme, ça m'a permis personnellement, même si c'est difficile de le vivre, c'est ça, ça cause des sentiments d'injustice. Mais aujourd'hui, moi, si je devais revivre ma vie, je revivrais toutes les épreuves que j'ai eues, tout ce que j'ai pu vivre auparavant. Et en fait, le truc, c'est juste que si je devais revenir, parce que je m'écarte, mais si je devais revenir à ça, bien sûr que je comprends et j'apprécie que tu te sentes concerné par quelque chose que j'ai pu vivre. Tu te sentes concerné par une certaine injustice, parce que peut-être que toi, ça vient te chercher. D'accord ? Et merci pour ça. Mais ne viens pas me l'imposer. Et pareil pour les personnes comme moi. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont maghrébins et qui cherchent à imposer certaines choses parce qu'ils ont ce syndrome du sauveur. Pareil. N'impose pas.
C'est n'importe qui. Ouais, tout à fait.
C'est ça. Ça peut être pour tout. Pour quand on est face à un SDF, on se dit, tiens, en fait, moi, je veux avoir mon syndrome du sauveur vis-à-vis de lui. Ça peut être un proche. Ça peut être n'importe qui, en fait. Juste de, si quelque chose te touche, on te dit pas de ne pas passer à l'action. On te dit pas de pas aider. Mais la personne concernée est plus à même de trouver des solutions. Déjà, écoute peut-être cette personne. Regarde si peut-être c'est vraiment aussi pire que ça pour elle. De quoi elle aurait besoin? Et qu'est-ce qu'elle pourrait apporter comme solution pour qu'elle puisse être pleinement actrice, en fait, de ce changement-là?
Tu sais, il y a un truc qui me venait en tête, là, par rapport à ce que tu partageais. Et puis, merci pour ça, Samir. À partir du moment où tu regardes quelqu'un avec pitié, tu l'empêches de pouvoir grandir et de reprendre son pouvoir.
C'est ça.
Ça marche pas. Tu peux avoir de la peine pour quelqu'un à un moment donné parce que ça vient te chercher et te dire « Putain, c'est vraiment pas cool. » Je prends un exemple tout bête et en même temps, c'est un exemple qui est important. J'ai regardé un film il y a quelques jours. J'ai plus le nom du film en tête. C'est pas très grave. Ça se passait aux États-Unis et c'était pendant la période de ségrégation. Justement. Ouais. Et j'ai été beaucoup touché par le film parce que ça dépeignait finalement la situation des femmes noires aux États-Unis lorsque leur seul travail, c'était de s'occuper des enfants et du ménage des baraques, des blancs qui étaient sur place.
Ouais.
Et elles le vivaient, en fait, dans des conditions qui étaient super complexes. Elles avaient aucun droit. Elles pouvaient finir en taule du jour au lendemain parce que leur patron allait dire, m'a piqué quelque chose, donc, au trou. Et, j'ai été touché par le film parce que c'est l'injustice qui vient me chercher et me dire waouh, quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, on en était encore à fonctionner comme ça. Et je sais pas moi comment j'aurais fonctionné à l'époque. J'en sais rien. N'importe qui peut dire qu'est-ce qu'il aurait pensé à l'époque, qu'est-ce qu'il aurait fait à l'époque. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, j'aurais probablement pris position, puis j'aurais certainement fini en tôle parce que j'aurais trop ouvert ma gueule et puis que ça aurait pas plu. Mais tu sais, tu peux te sentir concerné par, Tu peux te sentir touché par quelque chose, par une situation, mais ça veut pas dire que t'as le pouvoir de devoir t'investir d'une mission et finalement imposer ton point de vue, imposer tes règles, imposer la manière dont ça doit être réglé, ça doit être géré. Et je pense à beaucoup d'assos qui ont ouvert leurs portes il y a déjà pas mal d'années de ça en arrière et qui ont fait plus de mal que de bien, même si, dans le fond, elles avaient une intention positive, mais ça a été développé par des personnes qui n'étaient pas premièrement concernées. Ça a été envisagé et des stratégies ont été mises en place en fonction des personnes qui n'étaient pas concernées. Et du coup, ça a amené plein d'injustices supplémentaires. Alors, ça a fait du boulot aussi dans le bon sens. Mais c'est vraiment ici pour t'amener, toi qui nous écoutes, à comprendre que ce complexe du sauveur, il est pas bon. Il est dangereux. Il est pas bon pour toi, parce que ça veut dire que t'essayes de répondre à des choses qui sont pas stables, dont t'as même peut-être pas conscience, t'as pas conscience de tes propres besoins. Mais c'est aussi la manière dont t'interviens sur les autres. Et qu'en fait, quand t'es en posture de sauveur, t'as toujours un regard sur l'autre où tu la considères comme une victime, cette autre personne, ou ce groupe de personnes. Et tu peux pas responsabiliser des victimes, tu peux pas responsabiliser des gens que tu considères comme étant inférieur quelque part, parce que de toute façon c'est pauvre toi, tu vis ça, bon moi je le vis pas, moi je suis tranquille, je suis pas à ce niveau là. C'est horrible en fait, quand tu analyses le truc tu te dis mais putain en fait le complexe de supériorité il est bon là, tu sais, on est au taquet. Donc comment est-ce que avec ces considérations là et encore une fois t'as le droit de pas être d'accord avec nous, t'as le droit de bondir sur ta chaise, de dire mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est du n'importe quoi. Mais élargis ton champ de vision, essaye de voir sous un angle différent et de te rendre compte en fait que on pourrait, ne serait-ce qu'en faisant disparaître totalement le complexe du sauveur de la surface de la planète, je suis sûr qu'on fait disparaître énormément de conflits. Juste ça là, juste ça.
Exactement.
Donc, vas-y, Samir, vas-y.
Je veux dire, mais vraiment, encore une fois, tu sais, de souligner et de le mettre en gras, d'appuyer. On ne dit pas que si tu n'es pas concerné par une problématique, tu ne peux pas agir dessus. Ça touche et c'est très bien. C'est peut-être important, effectivement, pour toi d'aider, en tout cas, par rapport à cette cause. C'est, ça me fait penser à Malcolm X. Malcolm X, justement, quand il avait commencé à travailler sur les problèmes de ségrégation raciale ici aux États-Unis. Au départ, il disait qu'il faut qu'on règle le problème déjà entre nous, en fait. Parce que le problème, il est déjà chez nous et entre nous. On n'a pas besoin que des personnes qui ne sont pas concernées par notre problématique viennent, en quelque sorte, nous dire quoi faire et s'investir. Donc, on règle déjà le problème entre nous. Et après, par la suite, effectivement, il s'est un peu plus ouvert parce que là, il était dans une position un peu plus radicale. Par la suite, il s'est un peu plus ouvert. Il a dit, mais d'abord, en fait, d'abord, on veut bien travailler avec d'autres personnes, mais d'abord, il faut savoir que c'est nous qui devons avoir les clés en main et on doit d'abord régler nos problèmes entre nous. Donc, en quelque sorte, c'est juste ça, c'est que c'est important qu'on puisse tous ensemble agir sur certaines causes. Si certaines causes te touchent, c'est très, très bien. C'est peut-être que tu as quelque chose à apporter là-dessus. Mais n'impose pas. Si tu n'es pas concerné, n'impose pas. Accompagne. Essaye de voir un petit peu ce que les gens pensent au travers de tout ça, mais n'impose pas. Et c'est ça le souci, c'est ça la dérive. C'est que c'est pareil ici aux États-Unis, ceux qui vont parler d'appropriation culturelle, c'est des Américains, des Noirs américains.
Des vrais purs.
Ouais, c'est des Noirs américains en fait. C'est-à-dire que, tu vois, je dis pas afro-américain parce que beaucoup n'aiment pas le terme afro-américain. Pourquoi ? Parce qu'ils ont grandi depuis plusieurs siècles maintenant, ici aux États-Unis. Donc en fait, ils ont très peu de culture africaine. Ouais, donc, ils aiment pas être renvoyés à ça.
Ils sont détachés de la culture africaine. Okay, ouais.
Ils sont détachés. Mais par contre, ceux qui vont vraiment venir parler d'appropriation culturelle, c'est pas des personnes, j'en connais ici, c'est des Africains, des vrais, c'est des personnes qui sont venues d'Afrique et qui travaillent ici, etc. Eux, ils se sentent moins concernés par cette problématique que des personnes qui ont grandi ici depuis plusieurs siècles et qui n'ont, tu sais, qui n'ont aucune,
qui sont plus américains.
Qui sont jamais partis. Ouais, voilà, qui sont jamais partis, en fait, en Afrique. Et je peux comprendre après derrière Julien qu'il y a un sentiment d'injustice, il y a aussi peut-être tout le poids de l'histoire qui a été vécu, on leur a tout enlevé, on leur a enlevé beaucoup de choses, qu'aujourd'hui en fait ils se mettent en polarité pour pouvoir, tu sais, comme pour se mettre en défenseur de cette problématique-là. Ça me rappelle encore une fois un autre exemple, parce qu'il y en a beaucoup ici, c'est vrai, des cas comme ça ici aux États-Unis, ou dans une école, je ne sais plus si c'était à Harvard ou quelque chose comme ça, où en fait, il y a un espace multiculturel, principalement pour les minorités. Et un jour, il y avait un étudiant américain, donc blanc, tu vois, qui ne trouvait plus de place à la bibliothèque pour pouvoir travailler. Le seul endroit qu'il a trouvé pour pouvoir réviser, c'était de venir dans cet endroit-là. Et le pauvre, en fait, il s'est fait agresser, tu sais, on l'a insulté, etc. Parce qu'on lui a dit, mais en fait, t'as rien à faire ici. On s'est battu pour avoir cet espace-là. T'as d'autres espaces. Et en fait, le pauvre, il expliquait que, ben, en fait, j'ai essayé d'aller à la bibliothèque, etc. Il n'y a pas d'espace, en fait. J'ai pas trouvé, en fait, d'espace. Et il a essayé, tu vois, de collaborer, de discuter. Et en fait, on l'a même pas laissé en placer une. Et le problème, en fait, c'est qu'il est là, le gros problème. Que quand tu te poses en polarité de cette problématique-là, qu'est-ce qui se passe? Tu es toi-même à l'origine d'injustice. Tu es en train de pénaliser parfois des personnes qui font partie, qui ont vécu cette problématique-là, mais qui n'ont rien demandé et qui veulent pas que ça se passe de cette manière-là. Et tu pénalises aussi des personnes qui peut-être sont comme toi, sont pas concernées par la problématique et qui un jour peut-être ont eu envie parce que ils sont passionnés par la culture, parce qu'ils aiment bien les vêtements, de porter des vêtements qui ne sont pas les leurs, parce qu'on parle d'appropriation culturelle, mais vraiment c'est valable dans tout.
Bah,
tu les pénalises et tu leur colles l'étiquette de raciste peut-être, ou tu leur colles un procès aux fesses, alors que les pauvres, en fait, c'est juste qu'ils sont passionnés par cette culture et c'est juste qu'ils ont peut-être envie de la mettre en avant. Et je trouve ça scandaleux, en fait. Je trouve ça vraiment scandaleux comment cette société est en train de se polariser et comment au travers de certains combats polarisés, en fait, on est en train de créer beaucoup plus de dégâts qu'autre chose. Et je peux parler de SOS racisme aussi. Je pense que le racisme n'a jamais autant explosé en France, si on parle de la France, que depuis qu'il y a SOS racisme, où c'est des personnes qui sont pas du tout concernées, qui viennent mettre leur nez dans des choses qui les concernent pas. Bah, en fait, qui sont en va-t-en-guerre sur des problématiques où, en fait, les personnes concernées eux-mêmes n'ont strictement rien demandé. Ils ont rien demandé. Et à ce moment-là, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de polariser une autre partie de la population qui se dit « Ah, ils font chier, en fait, toutes ces personnes-là, on peut plus rien faire, etc. » Alors qu'en fait, les personnes concernées n'ont strictement rien demandé. On peut parler en France des repas halal. Je peux parler de cet exemple-là. Où au départ, les gens étaient capables de manger du poisson. Ils pouvaient manger végétarien. Alors, c'est très bien qu'il y ait des plats halal, d'accord? C'est très bien, mais les personnes au départ qui ont été demandeurs de ça, c'est pas les personnes concernées, en fait. Donc, on est venu, imposé à des écoles de mettre en place des plats halal et souvent des personnes qui n'étaient pas concernées. Et maintenant, en fait, tu as une partie de la population qui dit, et même les politiques qui se l'approprient, en disant, on est en train de venir chez nous, de nous imposer des choses qui ne font pas partie de notre culture. Mais en fait, c'est des gens comme toi, au départ, qui ont été à l'origine de cette problématique.
Oui, tout à fait.
Enfin...
Ouais, mais c'est tellement ridicule. C'est tellement ridicule comme situation.
J'en ai marre, Julien, j'en ai marre. Ça me saoule.
Exprime-toi. Non, mais je partage complètement et c'est vraiment ce côté ridicule. Et en plus, c'est un aspect, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on avait envie de l'amener dans ce podcast, c'est que, et d'ailleurs c'est souvent des éléments qu'on veut amener dans nos podcasts, c'est les aspects qui sont justement pas montrés. C'est le côté, en fait, où on t'amène pas à réfléchir et à voir sous un angle différent. Et c'est tellement dommage parce que on peut tous tomber dans le complexe du sauveur, d'autant plus si on a un historique et différentes problématiques et une méconnaissance de nos propres besoins, parce qu'on en parle quand même assez souvent de la place des besoins et comment est-ce que ça peut nous manipuler au fond de nous. Mais c'est vraiment crucial de comprendre que derrière cette intention parfois qu'on a de se dire bah, on va faire bien les choses, on va mettre ça en place, ça va être bon pour eux, ça va leur faire du bien, ça va leur montrer que... Mais en fait, est-ce que t'as demandé, quoi? Est-ce que t'as demandé?
C'est ça.
Et peut-être que ce jeune, alors, tu sais, d'un côté, c'est... Je peux comprendre la réaction qu'ils ont eue.
Oui, c'est ça, je peux comprendre.
On arrive à avoir un espace, puis tu nous envahis notre espace.
Bien sûr.
Peut-être qu'il aurait dû demander. Tu sais, de
bien
dire,
sûr, c'est vrai.
Excuse-moi, j'ai de la place nulle part. Est-ce que c'est OK si je m'installe là? C'est plutôt que prendre la place directement.
Exactement. Donc, après, je ne sais pas si ça se trouve, il a demandé. Hein. C'est ça aussi le truc.
Mais c'est ça aussi le problème. C'est que tu crées un espace spécifiquement pour ces personnes-là. Et c'est qui est à l'origine de cet espace? Est-ce que c'est les utilisateurs qui l'ont demandé? Ou alors c'est un petit blanc, une petite blanche là qui s'est dit « Oh tiens, je vais faire ma petite bonne action, je vais ouvrir une partie de l'établissement pour… Ben, pourquoi » Pourquoi Pourquoi
Vraiment.
Tu sais, c'est comme on s'en parlait la dernière fois sur la discrimination positive.
Mm-hmm.
Est-ce que j'ai envie de réussir à décrocher un emploi ou d'intégrer une université parce qu'en fait, je fais partie d'une minorité? Est-ce que c'est gratifiant? Je sais pas. Ça ouvre des portes, j'imagine. Parce qu'il y a toujours des cons qui peuvent t'empêcher de passer parce qu'ils ont décidé que oh, t'es pas de la bonne culture, donc tu rentres pas. Ça, des cons, c'est pas ça qui manque. Mais je sais pas quel sentiment tu peux avoir. J'essaye de me projeter. Si demain, on me disait, bah tiens, regarde, Julien, tu vas avoir l'opportunité d'avoir ce poste-là parce que, bah en plus, tu fais partie d'une minorité.
Tu dois rentrer dans les quotas. Ouais, c'est ça.
Je pense que la première chose que je dirais, c'est va te faire foutre et je le prendrai pas, ton truc. Je pense que c'est ça qui me viendrait. Mais je sais pas, je suis pas dans la situation et je suis pas dans la problématique qui aurait pu se poser. Mais je me questionne vraiment sur, même sur des choses comme ça où on se dit, ah, c'est cool, il y a de la discrimination positive. Mais juste ça, le terme discrimination positive, de quoi?
Ouais. Déjà, rien que le
parce
terme
qu'il y a
discrimination
ça,
positive.
C'est, ah bah, la réglementation nous impose d'avoir un handicap, une personne en situation de handicap, je vais le dire correctement, dans notre entreprise. Donc, on va prendre une personne en situation de handicap. Ça veut dire que je suis embauché juste parce que j'ai un handicap? J'ai le droit de remettre en question en fait la raison pour laquelle je suis intégré.
C'est ça.
Et je sais pas, moi ça me fait réagir. Peut-être que toi qui nous écoutes, tu trouves ça 100% normal et que tu vois pas du tout de problématique. Mais c'est vrai que de mon côté, là pour le coup, vraiment je me questionne sur la validité qu'il y a derrière ça. Je pense qu'il serait beaucoup plus pertinent d'apprendre à se respecter, mais vraiment se respecter les uns les autres, plutôt que de mettre des...
C'est ça.
Des éléments d'artifice qui sont, en plus, quand tu regardes dans le fond, je leur dirais, là, mais va te faire foutre, en fait. J'en veux pas.
Tu ne me respectes pas dans
ma personne, juste parce que je suis ça, c'est une occasion pour toi de m'embaucher. Non, ça marche pas dans ma tête.
C'est ça, en fait, c'est que derrière, il y a une envie de faire avancer les choses, il y a une envie d'apporter quelque chose, mais c'est souvent un moyen détourné. Plutôt que de régler la problématique, en fait, on va trouver d'autres astuces pour pouvoir faire avancer le truc, mais ça peut contribuer encore plus, parce que c'est ça, en fait. Si moi, demain, j'arrive dans une entreprise et on me dit, bon, bah écoute, Samir, on t'a pris parce que il y avait un quota à combler, là, bah je le prends mal, en fait. Enfin, tu me prends pas pour mes compétences. Tu me prends parce qu'il y avait un quota à combler. Donc, si jamais il y avait pas ce quota, est-ce que tu m'aurais pris?
Oui.
Tu m'aurais pas pris. Tu vois?
Ouais, tout à fait. Après, tu peux dire, bah si, on t'a pris, mais c'est toi qui avais les meilleures compétences de toutes les personnes qui se sont présentées.
C'est ça, en fait.
Ouais, mais je rentre quand même dans un quota. C'est comme.
Tu vois? En fait, moi, je suis assez mitigé. Alors, pour les polarités, bien sûr, comme tu sais, Julien, j'aime pas du tout les polarités. Bien sûr, si on part aussi, nous, Julien et moi, Tu peux penser qu'on part peut-être dans un extrême. C'est aussi justement pour contrebalancer et pour amener du questionnement. Parce que.
Oui, complètement.
Nous-mêmes, on se questionne. Enfin, nous-mêmes, on se questionne. Moi, sur certaines choses, clairement, parce que je suis concerné, j'aime pas qu'on me touche. Mais toi aussi, Julien, il y a des combats sur lesquels tu es concerné. Et tu n'aimes pas des personnes qui ne sont pas concernées viennent te dire comment faire.
Ça m'insupporte, ça. C'est rentre chez toi, là.
C'est ça.
Je t'ai pas demandé ton avis sur la question. Fait que. Va donc.
Va donc chez Speedy. Oh non, j'ai pas le droit, Julien. Faut que j'enlève.
Non, d'ailleurs, Samir, tu fais de la pub pour Speedy. Et tu sais quoi? Petit moment pause de pub. Ce podcast, il existe. Ben, c'est grâce à l'Institut Merlin. Parce que c'est du temps que l'Institut Merlin nous accorde. On s'accorde à nous-mêmes du temps pour t'offrir ce contenu-là. Petit rappel, l'Institut Merlin, c'est un centre de formation d'excellence en coaching. On t'accompagne dans ton parcours de certification, que ce soit en PNL, en sophrologie, en hypnose ou en psychologie positive. Et surtout, on te donne tous les outils, toute la guidance dont tu as besoin pour être le ou la meilleur coach dans ton domaine, sur ton secteur, de faire une vraie différence sur le marché et de pouvoir accompagner efficacement tes clients et tes clientes pour pouvoir en faire aussi une activité lucrative, parce que tu ne peux pas te nourrir d'amour et d'eau fraîche, tu as des factures à payer. Et ce métier-là peut te permettre de mener une vie tout à fait confortable, en fonction bien sûr du travail que tu vas mettre dedans. Mais en tout cas, si tu as un projet, si tu as envie de t'améliorer, de perfectionner, sache qu'on a énormément de choses à t'offrir. Donc on est à ton écoute, tu as juste à nous envoyer un petit message ou nous appeler, nous envoyer un mail. On est disponible sur quasiment tous les réseaux, je pense. Donc vraiment, très facile de nous retrouver. Puis tu as le lien en plus directement dans le détail de ce podcast.
Ouais.
Donc là, on rembobine. Hein, on parle plus de Speedy parce qu'on fait pas de pub pour Speedy. Donc vas-y, Samir, je te laisse continuer.
Bah, moi, il y avait un autre thème, tu vois, parce que regarde, depuis tout à l'heure, on parle d'appropriation culturelle, de thème racial, etc.
C'est vrai qu'on boucle pas mal.
On boucle beaucoup, ouais. Donc, par exemple, Julien, il y a aussi un autre thème, tu sais, qui vient souvent pour changer de thème, le thème du féminisme ou même du masculinisme. Il y a les deux, hein. Il y a les mâles alpha là qui, tu sais, se mettent, voilà, moi je sais ce que c'est qu'être un homme et il faut être comme ça, comme ceci.
D'ailleurs, je te coupe 30 secondes là sur la notion de mâle alpha. J'étais, mais plié de rire. Il y a une créatrice de contenu que je suis de temps en temps, je la trouve très très drôle, et qui disait, mais les mecs, vous êtes au courant quand même que la version alpha, c'est la version de merde qui est même pas mise au grand public parce qu'elle est pas du tout fiable et que ça fonctionne pas et que c'est de la grosse daube le truc.
Exactement.
Au moins la version bêta, quoi. La bêta, tu la testes. Mais l'alpha, c'est le truc de départ. Ça sert à rien. Ça ne marche pas. Ça tient pas debout. Donc, à tous les hommes alpha, hein, les mâles alpha, vous savez à quoi vous en tenir.
Allez, à bon entendeur.
C'est ça.
La petite crotte de nez, là, tu te débrouilles. Oui, mais c'est vrai, en
bref.
Plus, c'est vrai que dans le domaine du logiciel, par exemple, du développement, la version alpha, c'est la version qui sert strictement à rien. Elle est même pas mise sur le marché, il y a rien. La version bêta, au moins, elle est mise sur le marché, mais on la teste. Donc, c'est vraiment, c'est la version même pas 0.0, d'accord?
C'est la 0.0, ouais.
Toi, mal alpha, là, tu sais très bien ce qu'on en pense. Mais.
Ils vont dire qu'on est des rageux, c'est pour ça.
Ah, bah, je m'en fous, moi, tu sais. Mais tais-toi donc, Julien.
Voilà. Tais-toi donc.
Mais vraiment, tu vois, mais c'est parce que c'est un extrême comme un autre, encore une fois. Ces personnes-là, ils partent dans un extrême et ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de foutre plus de merde qu'autre chose. Ils sont en train de monter aussi les hommes contre les femmes parce qu'ils sont encore une fois avec un idéal qu'ils veulent comme appliquer à tout le monde et ils critiquent les personnes qui sont pas comme eux en plus. Ils viennent et ils te font
regarde. Oui,
Il faut que tu sois comme ça, si t'es pas comme ça. Et ils sont, franchement, ils sont très virulents. Moi, tu sais, qui sont là et qui ont des a priori, mais vraiment. C'est hard en fait ce qu'ils peuvent dire sur les personnes qui
pensent
pas comme eux,
c'est vraiment virulent,
ouais. Et comme je te dis, bref, on parle de ça, eux, que ce soit les mâles alpha ou que ce soit aussi les féministes là, c'est hyper extrémistes là, c'est exactement la même chose, Julien, que ce soit la personne qui
complexe du sauveur là, c'est impressionnant,
hyper pu, ouais, non,
impressionnant,
mais vraiment, ça pue à 1000 km.
Je pense que toi et moi, bah, on est pour cette mesure, et bien sûr que c'est des sujets aussi, et on va pas se le cacher, on travaille avec 90% de femmes au sein de l'institut.
Exactement, ouais.
C'est à un moment donné, tu te rends bien compte que la moitié de la population mondiale, elle a toute sa place, elle a son importance, les femmes sont bien
qu'elles soient
mieux
même
placées
que
nous. Sur énormément de sujets, on est mieux qu'elles, entre guillemets, sur d'autres sujets parce que, bah, il y a des compétences, des capacités physiques, il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Mais, toutes ces personnes-là qui sont
en tout cas, on a
extrême.
Des facilités et ils ont des facilités sur d'autres choses. Peut-être mieux, je sais pas. Mais il y a des facilités.
C'est ça, on a chacun notre utilité, on a chacun notre place et il y a personne qui devrait dire, ah bah, moi, je suis meilleur que toi, puis je prends ta place, puis ceci, puis cela. Et oui, il y a des combats qui existent encore aujourd'hui, qui ne devraient plus exister en 2024. Ça ne fait aucun sens qu'on en soit encore à ce stade-là, même après plus de 2000 ans d'évolution. Et on compte pas ce qu'il y avait avant. Mais c'est ça, c'est que des fois, tu vois, et en fait, je crois que le problème, c'est que ce sont ces personnes-là qui sont les plus médiatisées. Et c'est elles qu'on met sur le devant de la scène. Et quand je dis elles, c'est les personnes, hein, peu importe le sujet. Mais là, tu parlais du féminisme. Je suis désolé, des fois, je vois des féministes. Puis il y a des hommes féministes aussi qui sont hyper virulents parfois.
Ah oui, eux aussi, ouais. Ils sont pas concernés par la problématique, mais
est-ce que tu te rends compte en fait que t'es en train de desservir des années de combat qui ont été faits avant que t'arrives, avant que tu naisses, et que t'es en train de foutre du bordel parce que tu crées encore plus d'inégalités, tu crées de l'agressivité, tu crées de la réactivité, tu crées en fait, tu fais tomber des dominos les uns derrière les autres.
C'est ça.
Parce que t'as ton complexe du sauveur, tu veux de l'attention, tu veux être reconnu, tu veux être vu comme quelqu'un qui a fait quelque chose de bien de sa vie, puis qui va avoir de la reconnaissance. Ça marche pas, en fait. ça marche pas. C'est comme la Greta Thunberg qui déraille complètement dans son discours, qui a été médiatisée au possible et qui, je pense, a été surutilisée par d'autres personnes. Je pense qu'ils se sont bien servis de cette jeune fille-là. Mm. Et en fait, t'as juste envoyé un message qui, toi, t'as ridiculisé, puis en plus, qui a créé plus de polarité dans la population. Mm. Et c'est pas bon, là. T'as envie de défendre une cause, défends-la. Mais la polarité sera pas la réponse.
Non, c'est ça.
Malheureusement.
Ce sera pas du tout. Et tu vois, c'est ça, regarde, j'ai un autre exemple, par rapport au féminisme. Ça me fait penser à, il y a pas très longtemps, tu vois, certaines féministes extrémistes, là, qui ont une vision toute faite du féminisme, mais par contre, quand c'est des personnes qui leur ressemblent pas, ils les défendent pas. Ils les défendent pas. Il y a des femmes qui portent le voile, par exemple. Ça, c'est pas leur vision du féminisme. Qu'est-ce qu'on fait? On les rabaisse et on les ridiculise. Pourtant, c'est des femmes comme toi. Si tu veux lutter contre le féminisme, tu prends les femmes dans leur ensemble. Peu importe leur culture, peu importe leur façon de penser, peu importe d'où ils viennent, peu importe les traditions qu'elles portent. Si c'est ça ton combat, si c'est les femmes, en fait, tu mets tout le monde sur le même plat. Tu vas pas dire, non, en fait, il faut que ce soit comme ça. Il faut qu'une femme, elle soit comme ceci, comme cela. Non. Là, t'es polarisé. Là, t'es en train de foutre la merde. T'es pas une vraie féministe. Au contraire,
tu fais
dans ton syndrome du sauveur.
À tout un tas d'autres personnes.
C'est ça. T'es dans ton syndrome du sauveur et t'es dans ton syndrome de quoi? Complexe de supériorité. Parce que toi, t'es supérieur aux autres. Parce que toi, tu penses mieux que les autres.
Parce que toi, tu sais. On donne notre point de vue, on partage notre ressentiment.
Et peut-être qu'on a tort.
Et peut-être qu'on est complètement à côté de la plaque. Mais
quand je vois les résultats, moi, il y a des trucs...
Où t'as un isme dans ta manière de faire, c'est déjà qu'il y a un problème, quoi.
Ouais. Cyclisme, tout ça, c'est pas bien, ça. Franchement, faut...
Athlétisme.
Astérixme. Non, je rigole.
Astérixme.
mais tu vois, à notre combat, là, il y a pas longtemps, ça s'est passé chez vous au Canada récemment. Pareil. Il y a... un lutteur, il me semble que c'était un lutteur ou un combattant de MMA, je sais plus, qui en fait s'est inscrit, donc il s'est défini comme femme, donc il s'est inscrit au championnat féminin,
libre à lui,
comme étant une femme, d'accord? Sauf que ce qui s'est passé par la suite, encore une fois libre à lui, ok, mais c'est juste cet extrémisme-là en fait qui arrive, c'est que cette personne, elle est rentrée dans le championnat féminin. Il n'y a pas eu de prise d'hormones, il n'y a rien eu du tout. Hein.
Il a déglingué tout le monde, là.
Il a déglingué tout le monde. Il n'y a plus aucune femme qui pouvait gagner à ce moment-là. Il n'y a plus aucune femme qui a gagné au point où les femmes sont montées au créneau en disant, non, mais en fait, là, c'est injuste. Là. C'est pas normal. Ça fait des années qu'on se bat pour... c'est ça, elles ont raison. Ça fait des années qu'on se bat pour avoir notre catégorie. Et là, maintenant, il y a un mec qui vient, qui se définit comme femme, qui nous vole, en fait, nos trophées. C'est pas normal, en fait. Et
c'est comme le mec en natation.
Ouais, c'est comme en natation, c'est ça.
Qui remporte toutes les compétitions parce que de toute façon, elles peuvent pas rivaliser, malheureusement.
Elles peuvent pas, ouais. Et ce qui s'est passé au bout d'un moment, c'est qu'elles en ont eu marre, elles sont montées au créneau. Il y a des femmes qui ont été taxées de transphobes, d'accord? Et parce que le truc est mal fait, encore une fois, c'est mal foutu, c'est juste que c'est mal foutu. Il faudrait cadrer ça. Il n'y avait pas de cadre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un entraîneur de certaines championnes qui est venu, qui a dit, écoute, moi aussi, je suis une femme. Et il l'a démonté. Il a démonté ce mec, parce qu'en plus, ce gars-là se permettait de ridiculiser et de rabaisser les femmes qu'il battait. Tu vois, c'est ça le truc. C'est qu'en plus, il avait même pas une posture d'humilité. C'est qu'en plus, il les rabaissait, ces femmes. Donc, elles en ont eu marre.
C'est parce qu'il devait pas assez gagner de l'autre côté.
Certainement. Je pense qu'il a compensé, certainement, ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un entraîneur qui est arrivé. Il a dit, OK, moi aussi, je suis une femme. Mais il en a fait, tu sais quoi? Il en a fait son 4 heures. Cette personne qui s'est dit comme étant une femme était pas content à ce moment-là de se faire démonter. Mais c'est ça, en fait, le problème, c'est juste que il y a des personnes qui se battent et qui essayent de créer de l'égalité. C'est une très bonne chose. On sera jamais contre. Bien au contraire, c'est super que il y a des choses qui sont faites
pour essayer d'amener
plus de justice et plus d'égalité. Mais le problème, c'est que quand tu rentres dans cette espèce de polarité d'extrême, qu'est-ce que tu fais? Tu crées encore plus d'injustice à certains moments. Et les personnes qui sont concernées par ces combats et qui ont pendant des années, qui ont trimé justement pour pouvoir être acceptées et avoir une place dans cette société-là, c'est eux que t'es en train de priver. Et c'est ça, moi, qui me vient me chercher. C'est pas le fait que La société, elle bouge. C'est très bien que la société, elle bouge. C'est très bien qu'il y ait plus de justice sociale. Mais le problème, c'est que fais attention dans quelle direction tu vas. Si tu vas dans l'extrême, si tu n'écoutes pas les personnes concernées et tu ne prends même pas considération de l'avis des personnes concernées, en fait, t'es en train de tout foutre en l'air, en fait. On parlait du racisme tout à l'heure. Il y a des gens qui sont battus, pareil, parmi les miens, en fait, qui sont battus pour essayer d'avoir une certaine place. En fait, toi, tu viens, t'imposes des choses. En fait, tu nous as mis dans la merde, tu vois. T'as créé encore plus de racisme qu'au départ, sauveur, tu vois. C'est ça, à cause du syndrome du sauveur. Et c'est ça, en fait. C'est juste, travaillons ensemble. Et pour travailler ensemble, bah, ce serait bien qu'on se pose tous ensemble autour d'une table et qu'on prend en considération de ce que les personnes concernées pensent dans cette histoire.
Et puis veulent vraiment, et de quoi ils ont besoin.
Et voilà, et de quoi ils ont besoin. Et s'il y a des divergences, que tu ne prennes pas un point de vue plutôt qu'un autre, bah non. Il y a des divergences, bah tu prends tous les points de vue et t'essayes de faire quelque chose pour trouver un juste milieu. Mais bascule pas d'un côté plus que d'un autre. C'est juste ouais, ça, en fait, qui est demandé.
Complètement. Fait que c'est vrai que, bon, on amène beaucoup de points différents ici, mais ils sont tous interconnectés avec c'est ce ça. Principe du syndrome du sauveur. Et vraiment, si t'as un combat à mener, bah, si t'es directement concerné, mène ton combat, puis trouve des personnes pour t'accompagner, trouve des ressources pour t'appuyer là-dessus. Si tu décides de défendre une cause, mais que tu n'es pas touché directement par cette cause, au minimum, demande.
C'est ça.
Demande aux personnes concernées, qu'est-ce que vous attendez? De quoi vous auriez besoin? Qu'est-ce qui vous affecte le plus? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus? Plutôt que de jouer au rôle de technocrate dans un bureau.
Super.
Tu sais, avec
quelque chose.
Ton petit paquet de gâteaux, bien de là où t'es, toi, de ta région, avec ton petit mug de café, puis ton équipe de bridge autour d'une table. À dire bon alors on va défendre ce sujet-là donc personne dans la salle n'est concerné mais on a tous notre avis alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider. Juste sort ton complexe de ton besoin de reconnaissance, de validation, d'amour qui est mal géré et redonne la juste place aux choses.
Ouais, et développe ton écoute active aussi. Ça c'est important.
Et développe ton écoute active. Mais vraiment ce foutu syndrome du sauveur là, complexe du sauveur. C'est vraiment quelque chose qui peut faire bien plus de dégâts qu'autre chose.
Ouais, clairement.
Vraiment, c'est une force destructrice, t'as même pas idée en fait. Tant que tu le regardes pas avec le bon prisme, tu te rends pas compte à quel point c'est destructeur comme ouais. dynamique.
Bah, d'ailleurs, dans cette dynamique-là, on parle de déconstruction. Moi, j'ai pas envie qu'on déconstruise toute l'histoire de l'humanité et toute l'avancée de l'humanité depuis des siècles en fait.
Ça,
bah, pourquoi
ça,
déconstruire
ça aussi, tiens. Ouais, pourquoi déconstruire? C'est quoi
Pourquoi
le principe?
J'ai pas envie, moi. Tout ce qui nous a amené là aujourd'hui, même s'il y a des choses à changer, on déconstruit pas, on construit. Pourquoi tu veux déconstruire? Construis. Rafistole, si tu veux, tu sais, prends le temps justement de travailler sur certains points, mais déconstruis pas. Pourquoi déconstruire, en fait? Tu sais, on va devenir minable, hein, j'ai l'impression, Julien. Idiocratie dans pas longtemps. Vraiment.
Oh bon, on y est déjà, hein.
Ça me fait peur, en fait, parfois.
Mais ouais, mais après, tu sais, cette déconstruction, bah, quelque part, alors attention, je ne suis pas d'accord avec, c'est juste pour illustrer le point.
Bien sûr.
Mais cette déconstruction, elle est pratique, parce que ça veut dire que tu peux rebâtir selon tes normes, selon tes règles.
C'est ça.
Tu n'as plus besoin de tenir compte des règles qui sont déjà établies. C'est facile. Tu recommences tout à zéro.
Bah, en fait,
c'est celui qui est au pouvoir qui va décider de ce qui va être bien, de ce qui ne va pas être bien.
Exactement. En fait, c'est de la facilité, encore une fois. Plutôt que de régler le problème, on va venir rafistoler ou trouver la solution la plus simple. Sauf que, en fait, tu sais, il y a un acquis. Il y a un acquis qui a été construit pendant des années. Et c'est dommage, en fait, de mettre à la poubelle toutes ces années d'évolution, toutes ces années de travail, de réflexion, tout jeter à la poubelle comme ça. Parce que toi, aujourd'hui, tu viens avec une idée de ce qui devrait être bien ou ce qui devrait être mal et tu veux l'imposer à tout le monde. Sauf que tu sais, sache que des personnes comme toi, il y en a des millions. Alors s'il y a des millions de personnes comme toi, il y a un million de personnes avec sa propre vision de ce qui est bien et ce qui est mal. Imagine ce que ça va faire. Enfin, c'est des va-t'en-guerre en fait. Et ça me fait penser à ce proverbe soufi, celui qui, très souvent, les personnes qui veulent la paix reprochent aux autres de vouloir la guerre. Mais en fait, t'es dans le même truc en fait. Toi aussi, en fait, t'es un va-t'en guerre parce que tu imposes quelque chose aux autres.
Bah, j'ai même envie d'aller, je veux choquer volontairement, mais un des plus grands complexés du sauvetage de notre histoire moderne s'appelait Adolf Hitler.
Exactement, oui.
Puis ça, faut pas l'oublier. Il avait un méga complexe du sauveur. Parce que pour lui, ce qu'il faisait, c'était bon. Parce que pour lui, ce qu'il faisait, c'était la vérité. Parce que pour lui, c'était la solution pour avoir une société qui est équilibrée, qui fonctionne, qui est efficace, qui est juste. L'un des plus grands complexés du sauvetage de notre histoire, c'est Adolf Hitler.
Ouais. Et on a vu ce que ça a apporté.
Tous les complexés du sauvetage sont des Adolf Hitler en puissance.
Ouais.
Surtout quand on part dans les extrêmes, quelle que soit la position. Et tu peux dire, non, c'est pas vrai, parce que moi je suis contre ça, je suis machin, je suis truc. Non, non, surveille-toi. Surveille-toi. Parce qu'on est tous capables de ça. Tous. Et si en plus t'es porteur de ce syndrome-là, de ce complexe-là, t'es encore plus concerné par la question.
Ouais. Encore une fois, tu sais, ici on n'est pas en train de t'affirmer des choses. On n'est pas en train de te dire qu'on a raison, qu'il faut nous écouter, il faut tout prendre à la lettre.
Tu nous écoutes, on a la vérité.
Le grand gourou Skippy, c'est ça. Nous, on se questionne sur ça. Ça fait des moments où, tu sais, des fois avec Julien, on en discute et puis on se dit, mais peut-être que si ça se trouve, c'est nous qui avons tort. Et tu sais, on essaye de se mettre des deux points de vue. Mais aussi, on prend du recul et on voit aussi les résultats que ça apporte. C'est que parfois, ça détruit des gens. Ça brise des gens et parfois ça apporte encore plus de problèmes aux personnes concernées. Je peux penser justement, allez, un autre thème, Julien, le mariage gay. Mmh. À ce moment-là, les extrémistes qui ont amené ça, je connaissais des gens qui étaient gays, tu vois, et qui me disaient, en fait, non, on s'en fout. On a déjà le PACS, en fait. Il y a des personnes qui s'en foutaient. Ils étaient déjà bien comme ça. Je dis juste qu'il y a des personnes qui n'étaient pas concernées par cette problématique-là.
Qui ne se sentaient pas concernées et puis
qui se retrouvaient dans la merde.
Embarquées dans un combat qui n'était pas demandé. Mais oui, c'est clairement.
C'est ça.
Clairement. Alors, c'est sûr qu'après, d'un point de vue purement légal, pourquoi est-ce que ce serait illégal? C'est pas normal.
Bien sûr.
C'est une injustice. Bon, ouais. Ok. Allez, c'est bon. À la rigueur, on aurait pu appeler ça différemment. Juste par principe que parce que le mariage, bah, c'est mariage religieux, ça a toute une connotation derrière, etc. Ok, on aurait pu appeler ça différemment. Mais ceux qui étaient en tête de proue, là, ceux qui ont pris la défense de ce sujet-là, il y en avait combien qui étaient gays?
C'est ça.
Je sais pas. Je les ai pas comptés, moi. J'en sais rien. Mais je suis à peu près sûr qu'il y en avait pas beaucoup.
Ouais. Mais c'est juste que de venir imposer à tout le monde sans venir les consulter, bah, au final, en fait, t'as lésé des personnes.
Bah, tu crées encore plus d'injustice et puis tu crées un fossé, en fait, entre ceux qui ont rien demandé puis qui subissent, ceux qui ont rien demandé de l'autre côté non plus puis qui se sentent attaqués dans leur fondement et dans leur vision du monde. Et qui disent, bah non, c'est pas normal, ça devrait pas changer. Mm. Fait que tu m'étonnes que tu crées des conflits.
C'est ça.
Ça marche pas. Ça marche pas du tout. C'est complètement débile. Fait que les excités du sauvetage, là, calmez-vous le pompon, allez vous mettre le cul dans la glace, ça va vous calmer, faites quelque chose, quoi. Je sais pas. Calmez-vous. Trouvez-vous un hobby, je sais pas, retournez en cours, apprenez un nouveau métier, j'en sais rien. Occupez votre vie, mais faites autre chose que ça.
Ou alors sauvez-vous vous-même. Peut-être que vous avez besoin de vous sauver vous-même et que. Et que vous mettez ça sur les autres, en fait. Mais
investissez une plateforme pétrolière, faites-en un pays, et puis vous mettez vos règles sur place.
Il y a un mec qui avait fait ça, d'ailleurs, c'est drôle. Il y avait un mec
qui a fait ça.
Le mec, je crois qu'il avait tiré sur la marine anglaise et tout ça, en plus, parce qu'il s'était approché de chez lui, genre, rentrez pas dans mon pays. C'était trop drôle, cette histoire.
Il doit être bien attaqué, celui-là aussi.
Mais voilà, encore une fois, on n'est pas en train de dire il faut pas faire les choses. Parce que là, en nous écoutant, tu diras peut-être, ouais, mais ça veut dire en fait, on fait rien. Non.
Mais non, au contraire.
En fait, il faut
au contraire
faire les choses.
Mais on les fait correctement, s'il vous plaît.
C'est ça. Avec remise en question, on rentre pas dans l'émotionnel. On écoute les autres. On fait preuve d'humilité. Peut-être que j'ai raison. Peut-être que j'ai tort. Peut-être que je pars dans la mauvaise direction.
Puis peut-être que personne n'a raison, en plus.
Et peut-être que personne n'a raison. Ouais. Ça se trouve, nous... On a totalement tort sur ce qu'on est en train de dire. C'est juste que Julien, toi et moi, on est très nuancés. Donc, en fait, on prend le temps.
On essaye le plus possible.
C'est ça, on essaye. Donc, on prend en considération les deux aspects. Et c'est vrai que ça a fait avancer la société d'un point de vue. Parfois, les polarités font avancer, font basculer. Tu sais, ça fait basculer d'un côté et après, on peut retrouver un peu d'équilibre.
Ouais. Mais il y a combien de dégâts, en fait, entre-temps?
Mais
il y a combien de personnes qui souffrent?
C'est ça.
Tu parlais tout à l'heure du féminisme. combien peut-être il y a de jeunes femmes qui souffrent en fait de tout ce qui est mis en place et de toute la critique et le jugement et les réactions que ça amène autour d'elles et qui en souffrent. Je dis pas que c'est pas important de faire avancer ce sujet-là, mais tu parlais des gays il y a quelques instants, c'est la même chose. Combien il y en a qui doivent souffrir dans leur scolarité, dans leur enfance, leur adolescence, parce qu'en fait, on crée des sujets explosifs, on attise les consciences là-dessus, on pousse les gens à réagir et à se taper sur la gueule en direct, et ça se répercute en fait sur tous ceux qui sont derrière, qu'on a en charge, puis qui ont besoin de grandir dans un environnement qui va être sain, qui va être stable, avec des exemples, avec un cadre, avec tout un tas de choses. Ça a un impact qui est énorme. Alors oui, peut-être que tu te dis, si je gueule assez fort, les choses vont bouger assez vite. Je suis pas sûr, je suis pas convaincu du truc, personnellement.
Quand je vois la PETA interdire les animaux dans les manèges, les animaux en bois dans les manèges, j'ai pas envie de les écouter. Je me dis, non, mais en fait, votre lutte, elle est pas là, en fait.
Mais non, peu importe, c'est pas parce que tu vas mettre un cheval dans un manège que ça va poser problème, que tu demandes à ce qu'il n'y ait plus d'animaux qui soient utilisés dans les cirques. Ok.
Dans les laboratoires.
Très bien. Dans les laboratoires, qu'on limite le plus possible. C'est parfait.
C'est parfait.
Qu'on évite des élevages horribles. C'est parfait. On le fait. Qu'on évite les parcs aquatiques, qu'on évite les eaux. C'est parfait. C'est ok. Mais il y a une limite, quoi.
C'est ça. Il y a juste ça.
Il y a une limite. Demain, ça se trouve, on va dire au mec, vous avez plus le droit de porter du rose parce qu'en fait, c'est réservé aux femmes. Et les femmes, elles auront plus le droit de porter du bleu parce que c'est pour les mecs.
Ouais.
Ouais. En fait, ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc oui, il y a certains modèles qu'il faut limiter ou qu'il faut réexpliquer. Il y a des choses qu'on peut changer, mais je suis pas partisan de la polarisation.
C'est
et je crois vraiment pas que c'est la bonne stratégie à envisager.
Ouais, je pense pas. Je pense en fait pour moi, je pense vraiment que ce qui sauvera le monde, c'est de la sagesse. Avant, il y en avait à certains moments. Alors c'était peut-être pas tout. Tu sais, je dis pas que le monde d'avant était meilleur qu'aujourd'hui, bien loin de là, tu vois. L'humanité, elle est très récente, hein. Faut savoir que nous, les êtres humains, les animaux sont plus anciens que nous. Je pense que sur l'histoire de l'humanité, on représenterait même pas, un grain de sable sur une page, nous, les êtres humains. On est très récents.
L'histoire de la planète ou l'univers par rapport à nous, c'est rien du tout, là.
C'est strictement rien.
C'est la petite poussière, tu souffles dessus, y a plus rien, quoi.
C'est ça, exactement. Ouais. Donc, on est tout nouveau, nous, ici. Donc, il faut un temps. Il faut un temps pour évoluer, pour grandir, pour apprendre. Et peut-être qu'avant, oui, il y a des paradigmes qu'aujourd'hui, quand on le regarde avec notre regard d'aujourd'hui, on se dit « Ah, c'est scandaleux !» Mais pour l'époque, c'était pas grave. Et peut-être que c'était bien même pour leur époque, avec le contexte de l'époque, tu vois. C'était ce qu'il y avait de mieux à faire, en fait. Et c'est la même chose aujourd'hui. Toi, peut-être qui viens d'un pays occidental, t'as une vision du monde, t'as une vision du féminisme, etc., et tu estimes que c'est comme ça, mais tu vas venir l'imposer à une personne qui vit en Afrique ou une personne qui vit en Asie, mais peut-être que elle, sa vision de la féminité, c'est différent et ça va très bien et c'est très bien pour elle et c'est adapté à son contexte aujourd'hui. Et c'est ça le souci, en fait. C'est que vraiment, travaillons ensemble, trouvons un juste milieu et apprenons à nous écouter. S'il y a une personne qui te dit, moi, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de m'occuper de mes enfants, va pas lui dire en tant que féministe, ah, oh, c'est scandaleux, c'est ce que j'ai vu une fois, j'étais dans un...
Il y a des femmes qui se sont battues pour qu'on ait le droit de travailler,
c'est
que
ça,
machin.
Oui.
Oui, mais c'est très bien. Et en fait, ça remet pas en question le combat qui a été mené. C'est juste qu'on est, pas dans un régime communiste, quoi. Tout le monde fait pas la même chose, tout le monde suit pas le même mouvement à un moment donné. Ça marche pas.
C'est ça. Et si les critères d'une femme, les critères importants d'une femme, c'est de prendre soin de ses enfants et qu'elle a pas envie d'aller bosser? C'est très très bien pour elle. Elle est pas inférieure
comme
à toi, hein.
Comme si c'est le choix du père de se dire, en fait, moi, j'ai envie de m'occuper de mes gosses. J'ai envie d'être à la maison. J'ai pas envie d'aller me faire chier au boulot. Je veux voir mes enfants grandir. Je veux pouvoir les accompagner.
Exactement.
Fais-le. Je veux dire, y a rien qui t'oblige à.
Ah non, bientôt, Julien, on va dire que ça, c'est de l'appropriation. Les papas,
bah oui,
maman, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas.
On va piquer le rôle des femmes. Ah oui, bien évidemment.
J'en sais rien, mais il y a des gens qui diront certainement ça.
Ah non, mais c'est possible.
D'accord, donc fais pas chier ton monde et puis laisse chacun justement vivre sa vie comme il le souhaite.
Exactement.
Travaillons ensemble. Voilà, c'est juste ça. Je sais que peut-être que ce podcast va faire grincer des dents et on n'est pas juste des réfractaires ou des vieux aigris. On est juste là pour dire,
ah ben non, loin de
on
là.
Pose une question, on amène les problématiques liées à la polarité.
Pour nous, ne serait-ce que par notre formation, notre travail, notre vision des choses et l'observation qu'on fait de nos clients, la polarité ne marche jamais, quelle que soit la situation. Ça ne fonctionne jamais. Aucune polarité fonctionne. Fait que, il nous faut de l'élasticité, il nous faut de la souplesse, il faut être capable de voir les deux points de vue, l'importance des deux points de vue et naviguer entre les deux. On devrait dépenser beaucoup plus d'argent et de ressources dans la diplomatie plutôt que de fabriquer des tanks et des bombes.
C'est ça. C'est ça.
Parce qu'on aurait des vrais diplomates, on aurait de la vraie diplomatie et dans tous les domaines, sans exception. Mais en fait, on pourrait bâtir un monde qui serait juste extraordinaire. Clairement. Avec des différences, avec des règles spécifiques, avec des choses qui sont mises en place en fonction des cultures, en fonction des désirs, en fonction des attirances, ce que tu veux, on s'en fout. Mais ça fonctionnerait tellement mieux plutôt que de se taper sur la gueule pour savoir qui est le plus fort et qui a raison. Il n'y a personne qui a raison. C'est complètement con comme attitude.
Ah oui, il n'y a personne qui a raison. Ça, clairement. Personne n'a raison.
Fait que, juste voilà, c'est ce qu'on avait à te dire sur le syndrome du sauveur. On a, je pense, fait un très grand tour. Mais c'est vraiment te montrer aussi que si chacun d'entre nous, on prenait un foutu temps pour se poser, apprendre à se connaître, apprendre à comprendre comment on fonctionne, et de facto, mieux comprendre comment les autres fonctionnent et pourquoi ils sont si différents que nous, même le voisin d'à côté est différent que nous, ben en fait, on n'aurait pas besoin de subir les travers de notre psychologie et de nos biais de fonctionnement autant que ce qu'on peut les subir aujourd'hui. Mm. Le monde s'en porterait vachement mieux. Vraiment.
Exactement.
Je le crois.
Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Alors, toi qui nous écoutes, tu sais, peut-être que t'es pas d'accord, peut-être que... Et c'est correct, hein, totalement. Okay. Nous, en fait, encore une fois, on est aussi dans l'incompréhension quand on voit ça. Donc, si tu as des éléments, peut-être, qui nous manquent, n'hésite pas à nous les partager en commentaire. Mm-hmm. Peut-être que ça va faire bouger aussi. Et puis, notre vision des choses va bouger, quoi qu'il arrive. Elle va bouger, elle va se... Comment dire, l'équilibre, c'est du déséquilibre, quoi qu'il arrive. Donc, parfois, on se déséquilibre, on pense de l'autre côté, puis on revient là. Mais c'est juste que aujourd'hui, la société a énormément besoin d'apaisement. Et ces extrêmes-là, en fait, sont en train de créer davantage, malheureusement, de tensions, en fait. Et parfois même, vraiment, ce syndrome du sauveur, ça peut mettre des gens dans la merde alors qu'ils n'ont strictement rien demandé. C'est comme si demain, mon collègue, tu sais, mon camarade de classe, Franck, vient et demande à la professeure, tiens, Samir, c'est l'heure de la prière, il faudrait lui donner... Je sais pas, moi, ce serait bien quand même qu'on lui donne une pause pour faire la prière, alors que moi, j'ai strictement rien demandé. Et après, ben, en fait, ça fait la une des journaux, et puis on commence à dire les musulmans font chier parce que ils commencent à demander des heures de prière. Alors que moi, j'ai rien demandé, en fait. Et ça s'est tellement produit que dans tous les combats, en fait. Dans tous les combats.
Bien sûr. Ouais, c'est pareil de, il faut impérativement qu'on mette un repas végétarien à la cantine des gosses. Il faut impérativement qu'il y ait telle et telle chose. Mmh. Forcément, tu crées des frictions, tu crées des choses, alors que ça peut être fait tellement différemment. Mais tu vois, j'étais en train de t'écouter et presque j'aurais envie qu'on ouvre des arènes, qu'on foute tous les polarisés dedans, puis qu'on les laisse se taper sur la gueule pour savoir celui qui va gagner. Et puis après, on ramasse les morceaux, puis de savoir est-ce qu'il n'y avait pas des trucs intéressants dans ce qui a été partagé, puis dans ce qui a été dit, puis voir si on peut en faire quelque chose.
Ouais.
C'est plutôt que ça s'étende et que ça pollue l'esprit de tout le monde. On les laisse se mettre d'accord entre eux et puis après on voit ce qui leur sort et on voit ce qu'on peut en faire.
Ouais.
Mais bon, c'était pour la petite blague.
Ouais, c'est drôle. Je sais pas, faudrait réhabiliter le Colisée peut-être avant, tu vois.
Parce que je suis pas pour la violence, donc c'était vraiment l'image en tant que telle. Mais plutôt que de laisser ce venin parfois qui, c'est même pas parfois, qui est souvent malheureusement médiatisé. Et qui vient polluer l'esprit de tellement de monde, parce qu'ils font juste que recevoir, et il n'y a pas d'esprit critique là-dessus.
C'est ça, et je t'assure, Julien, des fois, les personnes concernées parlent. Moi, j'ai eu cette discussion avec quelqu'un, et moi, je suis concerné, j'étais concerné par la problématique, toi, tu ne l'es pas, et tu ne m'écoutes pas, en fait. C'est comme, non, tu es dans ta tête, toi, tu as raison, et tu cherches à me convaincre. Tu cherches à me convaincre moi-même, tu vois.
Oui, mais tu n'as pas compris.
Tu vois.
T'as pas compris, c'est pour ça. Cette personne-là, elle savait mieux que toi.
Ben c'est ça, elle savait mieux que moi ce que c'était que le racisme.
Elle connaissait ton histoire, elle connaissait ta situation, elle connaissait ce qui s'est passé dans ta vie, par quoi t'es passé.
Ouais.
Elle savait mieux que toi.
C'est ça.
Donc Samir, c'est frustrant.
D'accord, ok, je me la ferme. C'est bon. Donc voilà, toi qui nous écoutes, maintenant que tu nous as entendu parler sur ce sujet pendant moult et moult, je ne sais combien de minutes, c'est ça. On va t'inviter à liker, commenter, partager. Si tu veux pas liker, tu likes pas, mais on va t'inviter à commenter si t'es pas d'accord. Ce serait bien qu'on ait ton avis, parce que justement, on est demandeur de ça. Et c'est important qu'on puisse discuter. Par contre, ton avis, juste une chose, ton avis, on aimerait qu'il soit constructif et bienveillant. Parce que s'il l'est pas, bah on va t'envoyer te faire en papaouter comme les autres. Ça, malheureusement, faut
exactement.
Que tu t'y attends.
Tu vas finir alcoolisé, toi aussi.
C'est ça, parce qu'on pourra pas discuter sinon, donc c'est pas trop, tu vois.
Bah non, c'est pas le but.
C'est pas le but, ouais.
Voilà.
Donc voilà, et puis Julien, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter avant qu'on clôture.
Non, bah à part ça, on va te revenir avec un prochain épisode et on espère vraiment que à travers cet épisode-là aussi, bah on t'a amené à réfléchir différemment, à remettre en perspective certaines choses, à t'aider à prendre du recul aussi avec tout le bruit ambiant, parce que bah c'est le but aussi de tous ces épisodes de podcast, c'est de t'aider à progresser, à grandir, à prendre du recul, à réfléchir par toi-même, à voir les choses sous des angles différents pour que tu puisses avancer plus facilement. Et on n'est jamais prédicateur de vérité, porteur de la vérité absolue là. C'est pas notre c'est pas notre rôle et on n'aura jamais cette prétention.
Non, pas du tout.
Mais juste voilà, avoir un son de cloche un petit peu différent, avoir des réflexions qui sont différentes. Si ça fait écho, tant mieux. Si ça fait pas écho, c'est pas grave. Fais ta propre idée, mais c'est ça. Tant que ça fait progresser, grandir, réfléchir, remettre en question, puis surtout que ça t'aide à progresser, c'est surtout ça le plus important pour nous.
Vraiment, vraiment. Et apprends à écouter les autres, c'est vraiment important. Je te l'assure. En tant que maghrébin, parfois j'ai discuté avec des personnes qui étaient c'est vraiment réfractaire de l'immigration, de ceci, alors que moi-même, je n'étais même pas français. J'ai pris le temps de les écouter. J'ai pris le temps de discuter avec eux. Et en fait, il n'y a rien de mieux que de créer des débats apaisants. Parce qu'à ce moment-là, on s'écoute. Moi, j'écoute ton point de vue. Ok, je peux comprendre ton point de vue. Je sais qu'en fait, finalement, ton point de vue, peut-être qu'il est intéressant dans certains cas, mais moi, je ne suis pas dedans, en fait, alors que je me sentais concerné avant. Mais finalement, je ne suis pas concerné. Et lui, bah, la personne qui est en face de toi, elle va t'écouter. Et elle va comprendre aussi peut-être que, ah bah tu vois, en fait, moi, je savais pas que tu vivais ça, effectivement. Je savais pas que ceci, que cela. Et il n'y a rien de mieux que ça, en fait, pour pouvoir grandir. C'est la meilleure chose. Et j'ai eu des amis parfois qui étaient de bord totalement inverse de moi. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait aussi des points communs. On avait aussi beaucoup de points communs sur lesquels on pouvait se raccrocher. Et les autres, c'était des divergences. Et c'est pas grave. C'est pas grave. On verra pour plus tard. Donc voilà, développe ton empathie, développe ton écoute active, apprends à faire preuve d'humilité et surtout, n'oublie pas d'être extraordinaire chaque jour et crois au maximum en ton potentiel.
N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.
À la prochaine.